Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La situation humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie est catastrophique. Un cri d'alarme de Médecins Sans Frontières par la voix de la responsable du programme Syrie à MSF. Nous écouterons Sarah Chateau. Le président des Émirats Arabes Unis effectue une visite d'État en France, une visite au cours de laquelle Mohamed Ben Zayed Al Nahyan devrait signer plusieurs accords, notamment dans le secteur de l'énergie. Les députés français se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour examiner pendant 3 jours le projet de loi pouvoir d'achat sur fond d'inflation galopante. Et dans ce contexte, cette requête du droit au logement, l'association demande une baisse des loyers et non une hausse plafonnée à 3,5%. Nous écouterons le porte-parole du DAL, Jean-Baptiste Hérault. Il appelle les locataires à se mobiliser. La Coupe féminine d'Afrique des Nations, demi-finale Maroc-Nigeria ce soir à 21h. Gros plan sur la situation, notamment humanitaire, dans le nord-ouest de la Syrie. Le Conseil de sécurité a adopté la semaine dernière une résolution par laquelle il prolonge pour 6 mois les livraisons transfrontalières d'aide humanitaire de l'ONU depuis la Turquie. Cela concerne 4 millions de personnes. Sarah Chateau, responsable du programme Syrie à Médecins Sans Frontières, fait part d'une situation catastrophique dans cette région. Sarah Chateau, entretien.
La situation reste catastrophique dans la Syrie et particulièrement dans le nord-ouest de la Syrie où nous sommes présents. Après maintenant 11 années de conflit, les besoins restent énormes. Il y a une population de déplacés très conséquente. On parle de plus de 4,5 millions de personnes déplacées dans cette zone-là, ce qui est quand même un énorme volume de population. Et les aides humanitaires sont un petit peu décroissantes de part d'une la durée du conflit et d'autre part la complexité de pouvoir atteindre aussi ces populations-là.
Ces populations-là qui vivent depuis plus de 11 ans dans ce pays en guerre, et cela a un impact notamment sur le plan psychologique pour toutes ces personnes.
Tout à fait. Ces personnes-là sont pour la plupart, pour plus de 60% dans cette zone-là, sont des déplacés. Donc ils ont dû lâcher leur foyer, quitter une partie de leur famille. Certains ont essayé dans leur famille, sont à l'étranger en tant que réfugiés. D'autres sont restés mais loin de chez eux. Ils vivent dans des camps. On a énormément de gens qui sont vraiment dans des niveaux de pauvreté, de précarité assez importants. Par exemple, nous, à Idlib, on a une unité de brûlés pour prendre en charge toutes les personnes qui sont victimes un petit peu de par leur précarité, de par leurs conditions de vie, de brûlure, parce qu'ils vivent sous tente, avec des réchauds, des bougies, et on a énormément d'enfants, de personnes, on voit les tentes qui prennent feu, les conditions de vie sont très rudes, encore plus l'hiver, où c'est quand même une zone où il neige, où il y a régulièrement des inondations, régulièrement des vagues de froid, des périodes où la neige recouvre un peu toutes les tentes. Et ça reste encore des tentes, c'est pas des constructions temporaires pour l'instant.
Et qu'en est-il de l'éducation, l'accès à l'éducation dans les camps de déplacés aujourd'hui?
Comme pour tous les services, il y a une offre, comme pour la santé, comme pour la sécurité alimentaire, l'éducation aussi. À Médecins Sans Frontières, j'aime moins pouvoir aller en détail sur l'éducation, mais il y a des offres qui sont offertes par les UN, par les ONG internationales dans les camps. Ça reste en nombre insuffisant. On a ce qu'on appelle un petit peu des volumétries dans la réponse aux urgences, où on essaye de se dire que pour tant de populations, pour tant d'habitants, il faut au moins un médecin, il faut au moins une école, il faut au moins tant de latrines, par exemple, ou de points d'accès à l'eau. Donc c'est vrai que sur la prise en charge de déplacés ou de réfugiés, on essaye d'avoir un petit peu des critères d'urgence pour permettre aux agences humanitaires, aux ONG, de pouvoir répondre et de chercher les financements pour pouvoir mettre un peu tout ça en place. En Syrie, aujourd'hui, on est en dessous de tous les critères.
La guerre en Syrie qui ne fait plus la une de l'actualité, vous soulignez que ce pays reste bien en guerre avec cette région gravement victime de ce conflit.
Oui, en Syrie, il faut savoir qu'il y a des bombardements, pas quotidiennement, mais en tout cas toutes les semaines. Il y a des villages attaqués, il y a des tirs de roquettes, il y a de la criminalité avec quelques kidnappings. La situation est tellement précaire, tellement pauvre et instable que ça laisse un espace assez grand pour tous les groupes criminels. qui ont besoin de survivre et ça développe énormément la criminalité avec du kidnapping criminel. Donc oui, c'est une population qui vit déjà pas forcément avec assez à manger, dans des tentes, sous l'été, la chaleur, mais l'hiver, le très grand froid, et qui, à côté de ça, subit une dégradation du contexte économique et voit régulièrement des avions, des attaques aériennes, des attaques au sol. Quand vous regardez l'actualité dans le détail de ce qui se passe en Syrie, c'est encore une guerre active.
L'économie syrienne est elle aussi victime de la guerre menée par la Russie en Ukraine ?
Comme la plupart des pays dans la région, dans la sous-région, ils sont impactés aussi par la hausse du prix de la farine, du blé, etc. C'est vraiment la denrée alimentaire de base, le pain, dans cette zone-là. Donc oui, ils sont impactés.
La région d'Idleb échappe au contrôle du régime syrien. Quelles sont les forces en présence aujourd'hui sur place et comment se déroule cette cohabitation ?
Il y a la région d'Idleb qui est sous contrôle de groupes armés, mais il y a aussi la région au nord d'Idleb, Afrin, Al-Bal, qui sont sous contrôle actuellement des autorités turques et qui ne sont pas sous contrôle du régime syrien de Damas. Donc il y a plusieurs, dans cette zone-là, il y a plusieurs zones qui sont contrôlées par différentes autorités, soit les Kurdes, soit les Turcs, soit le groupe armé HTS. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour pouvoir comprendre un petit peu géographiquement, géopolitiquement cette région. Il y a des sous-checkpoints, il y a des sous-barrages un petit peu au sein de cette région entre les zones contrôlées par les Turcs et les zones contrôlées à Idleb par le groupe armé. Donc c'est pas évident de pouvoir accéder à toutes ces zones et de pouvoir discuter avec toutes les autorités en présence parce que on retrouve les autorités turques, le groupe armé HTS qui contrôle vraiment la zone d'Idleb. Ils sont vraiment les principaux interlocuteurs pour cette région-là.
Et lorsque vous discutez avec la population, notamment avec la population de la province d'Idleb, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans leurs propos, dans leurs demandes ?
De sortir de cette guerre, d'avoir de la paix. Et nous, c'est vrai qu'on a démarré là cette année, et on va le renforcer, tout un programme santé mentale, parce que c'est vrai que là, on voit au bout de 11 ans vivre dans un conflit. On ne peut pas parler de trauma post-conflit, on n'en sort jamais de ce conflit. On a en permanence peur d'un bombardement, d'un avion qui survole la zone, d'une attaque au sol. On a en permanence peur d'une offensive. On attend la prochaine offensive parce qu'on se doute qu'il y en aura, parce qu'on a eu régulièrement la dernière date maintenant de 2020, mais tout le monde attend ce qu'en est l'autre. Et puis il y a eu le Covid, il y a des épidémies. Donc c'est vrai que c'est vraiment un sentiment de fatigue extrême quand on discute avec la population, avec les patients qu'on arrive à qui en arrive à porter nos soins, c'est vraiment ce sentiment d'être à bout. En discutant avec les jeunes adolescents, on se rend compte que malheureusement, il y a beaucoup d'idées suicidaires qui se développent là vraiment plus fortement ces dernières années, d'où l'idée là, de travailler vraiment sur un programme de santé mentale et de pouvoir appuyer, accompagner cette population. Mais c'est compliqué de travailler la santé mentale tant qu'on est encore sous le coup de la guerre.
Sarah Chateau, responsable du programme Syrie à Médecins sans frontières. Le président des Émirats arabes unis est en France. Mohamed Ben Zayed Al Nahyan effectue une visite d'État au cours de laquelle il devrait signer plusieurs accords, notamment dans le secteur de l'énergie, cela dans un contexte de hausse des prix du pétrole. C'est sa première visite d'État en tant que président des Émirats, Mohamed Ben Zayed, qui déjeune à l'Élysée avec son homologue Emmanuel Macron. Les relations franco-émiraties se sont nettement développées ces dernières années. En décembre, Abu Dhabi a notamment signé un contrat de 14 milliards d'euros portant sur 80 avions de combat Rafale. L'Algérie a décidé d'augmenter de 4 milliards de mètres cubes supplémentaires le volume de ses livraisons de gaz à l'Italie, et cela à partir de cette semaine. Des livraisons par la Sonatrach à Eni et à ses autres partenaires italiens. L'Algérie a déjà livré à ce pays depuis le début de l'année 13,9 milliards de mètres cubes, dépassant de 113% les volumes prévisionnels. Les manifestations sont encore réprimées au Soudan. Des manifestants ont essuyé hier des tirs de grenades lacrymogènes. Ils manifestaient à Khartoum et dans les principales villes du pays pour rendre hommage aux centaines de victimes d'un nouveau conflit tribal, mais aussi pour demander le départ des militaires au pouvoir. Les députés français se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour examiner pendant 3 jours le projet de loi pouvoir d'achat, cela sur fond d'inflation galopante, un texte officiellement appelé mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Parmi ces mesures, la revalorisation des retraites, des allocations familiales et des minima sociaux, le plafonnement à 3,5% de la hausse des loyers pendant 1 an ou encore des dispositifs de sécurité énergétique. Les députés enchaîneront avec l'examen du projet de budget rectificatif pour 2022. Il doit permettre de financer et compléter ces mesures. Dans ce contexte, le cri d'alarme du droit au logement face à l'inflation en France, l'association demande une baisse des loyers. De son côté, le gouvernement entend donc limiter la hausse à 3,5% pendant 1 an. Mais pour le porte-parole du DAL, cela représentera une perte importante de revenus pour les locataires. Idem pour la hausse de 3,5% des APL, une augmentation bien en deçà de l'inflation. Entretien avec le porte-parole du droit au logement, Jean-Baptiste Hérault.
En réalité, ce plafonnement va coûter de l'argent aux locataires. Ne l'oublions pas, puisque en moyenne, pour un loyer de 500 euros, les locataires auront à payer en plus 17 euros par mois. Ça, c'est la hausse de 3,5% donc de l'indice des loyers. Bon. Donc ça, c'est déjà, ça va être un effort. Pour 1000 euros, ils vont avoir à payer le double, c'est-à-dire 34 euros par mois pendant au moins les 6 mois, voire pour l'année à venir. Alors maintenant, on n'oublie pas non plus ceux qui vont toucher l'APL. Donc le gouvernement généreux nous dit « Ah oui, mais on va aussi augmenter l'APL de 3,5%. » Alors d'abord, rappelons que l'inflation sera quand même supérieure à 3,5%, donc ça ne viendra pas de toute manière équilibrer l'effort de la solidarité nationale et par rapport aux locataires. Et ce qu'on doit rappeler également, c'est que pour nos 6,6 millions de bénéficiaires de l'APL, ils devront débourser pas loin de 10 euros par mois, en complément, on va dire, de l'aide supplémentaire que va accorder le gouvernement. Et puis n'oublions pas que depuis 5 ans, le gouvernement ne cesse de raboter, de prendre des mesures d'économie sur les APL. Aujourd'hui, pour l'année 2022, on a environ 29 euros d'économie par mois, en moyenne, qui est faite sur le dos des allocataires qui touchent l'APL. Ils touchent 29 euros de moins qu'il y a 5 ans. En gros, pour la moyenne générale. Donc, si vous rajoutez 10 euros, ça fait 39 euros, les 10 euros qui restent à payer par rapport à cette hausse de loyer de 3,5%, eh bien, on arrive à 39 euros par mois. Et c'est, encore une fois, les ménages les plus modestes qui vont souffrir de la carence délibérée des pouvoirs publics pour aider les ménages modestes à se loger convenablement et à se dire à avoir un niveau de loyer, un taux d'effort, c'est-à-dire une part, le revenu qui se consacre au loyer, qui soit décente. Aujourd'hui, les ménages modestes consacrent largement un tiers de leur revenu, sinon la moitié de leur revenu pour les plus modestes, et souvent pour se loger dans de mauvaises conditions. Il faut aujourd'hui agir pour loger convenablement les classes populaires. Ce qui n'est pas le cas, leur situation se dégrade de plus en plus. Et là, les mesures annoncées par le gouvernement sous une allure de « bon, on va quand même aider les locataires et les allocataires, ceux qui touchent l'APL », en réalité, c'est des miettes qui sont jetées en pâture, histoire de faire taire un peu les critiques.
Vous estimez que le gouvernement aujourd'hui protège les bailleurs, les propriétaires au détriment des locataires?
Bien entendu. C'est-à-dire, le gouvernement aujourd'hui soutient non seulement les bailleurs, il ne veut pas en fait que ceci ait à consacrer des efforts importants en matière de baisse de loyer. Il veut maintenir la rente locative à un niveau élevé pour différentes raisons qui sont des questions aussi à la fois d'argent, puisque l'État gagne beaucoup d'argent sur le logement cher. Et le logement cher pèse sur le budget des ménages modestes. Au fond, on a une convergence d'intérêts entre l'État et les rentiers du logement et les milieux d'immobilier. Tout ce petit monde-là gagne de l'argent sur le logement cher, et derrière, c'est les classes populaires qui tirent la langue. Donc il faudra bien, à un moment donné, que les locataires descendent dans la rue, manifestent, se fasse entendre, comme ça s'est fait dans d'autres pays, et ce qui a d'ailleurs permis d'amener à des baisses de loyers. Donc nous, on appellera en tout cas à se rassembler à l'Assemblée nationale lorsque le projet de loi de finances rectificatif qui porte les réformes, lorsque ce projet de loi de finances sera discuté.
Face à l'augmentation des loyers liés à l'inflation, craignez-vous davantage d'impayés et donc davantage d'expulsions dans les mois à venir?
La hausse des loyers, hein, qui va coûter, je le rappelle, 17 euros en moyenne par mois pour des loyers de 500 euros, moyen, loyer moyen de 500 euros, automatiquement va entraîner des impayés de loyers pour ceux qui sont juste au bord, juste à la limite. Les charges augmentent aussi en parallèle. L'alimentation, enfin tous les postes sont en augmentation, sauf les salaires. Donc automatiquement, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'impayés, de plus en plus d'impayés, on va avoir beaucoup d'expulsions locatives, on va avoir de plus en plus de gens dans les rues, voilà, de plus en plus de sans-abri, de plus en plus de demandeurs de logements sociaux, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est le drame de la crise du logement que nos institutions refusent d'affronter, refusent de régler même, tout simplement. Or, on sait comment on peut régler la crise du logement. Il faut agir sur la bulle spéculative, il faut dire ça suffit, vous avez gagné assez d'argent, maintenant les prix vont revenir à un niveau normal, il faut produire massivement du logement social, il faut baisser les loyers dans les zones tendues, il faut agir pour baisser les loyers, comme ça a été fait à Berlin, par exemple, et il faut augmenter les APL pour permettre, on va dire, notamment aux bailleurs sociaux, de fonctionner normalement. Non seulement les locataires ont été mis à l'amende avec la baisse des APL, mais aussi les bailleurs sociaux. Donc il faut agir maintenant à tous les niveaux pour mener une vraie politique du logement et loger le peuple.
Le porte-parole du droit au logement, Jean-Baptiste Hérault, vous l'avez bien évidemment constaté, il fait chaud, très chaud aujourd'hui en France. Le point culminant d'un épisode caniculaire qui touche l'Europe occidentale. Cette vague de chaleur est la deuxième en à peine un mois en Europe. Météo France s'attend à voir de nombreux records de températures battues, notamment dans l'ouest et le sud-ouest, où la situation est critique. Les feux ont dévoré en 6 jours plus de 13 000 hectares de végétation dans la région de Bordeaux. L'Europe occidentale n'est pas la seule région touchée. Les températures extrêmes ont aussi provoqué des feux de forêt, notamment dans le nord du Maroc, où une personne est décédée. Cela dans un contexte de sécheresse hors norme et de stress hydrique. La Coupe féminine d'Afrique des Nations, demi-finale Maroc-Nigeria, ce soir à 21h heure de Rabat, 22h heure française. Les Lions de l'Atlas s'étaient qualifiés pour le dernier carré aux dépens du Botswana de Buzyn. Les Marocaines qui avaient ainsi empoché leur ticket pour le Mondial 2023, organisé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vous êtes bien sur Radio Orient à 13h30, le journal du Liban. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est midi 17.